Cette émission est réalisée par des personnes privées de liberté dans le cadre d'ateliers d'éducation populaire organisés à la prison de Harun. Les propos exprimés dans ce contenu audio sont uniquement des opinions personnelles. Elles ne reflètent pas le point de vue d'un tiers et a fortiori des autorités carcérales ou des membres du SPF Justice. De plus, les informations factuelles énoncées ne font pas l'objet d'une vérification.
Le CRI.
Le CRI.
Une émission.
Des personnes
privées de liberté.
Privées de liberté.
De liberté.
Chères auditrices, chers auditeurs, une fois de plus, j'ai le grand plaisir de vous présenter notre émission Le CRI. Comme vous le savez déjà, c'est une émission présentée par des personnes privées de liberté à la prison bruxelloise de Harun. Aujourd'hui, vraiment, je suis doublement ravi parce qu'on compte sur un auditeur de plus parmi vous. Il s'agit de notre ancien coéquipier Jamal, qui a été récemment libéré. Cher Jamal, bonne continuation à toi et à ta petite famille. Profite de tes proches et ne reviens plus ici. Cette émission est dédicacée à toi, mon pote. Passons au thème d'aujourd'hui. Mais je pense qu'avant de passer au thème, je veux vous présenter à mes collègues. Donc à côté de moi, j'ai Mr. G.
Bonjour, aïe, bonjour. Aïe, aïe,
aïe. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Kipala, comment tu vas ?
Bonjour, je vais bien, merci. Et toi ?
Bien, 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 bien. Samir, ça raconte quoi ?
Ça va très bien, merci.
Et Mr. Mohamed ?
Ça va, tout bien, tout bien.
Allez, allez. Serhat, bonjour. Oh,
salut, salut. Et je voulais passer un message à Jamal. Jamal, salade tomate, jamais malade, n'oublie pas.
Et à côté de Serhat, j'ai un Mr. VP.
Salut Fawzi, comment vas-tu ?
Bien, 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 mon ami. Eh bien, écoutez, pour passer au sujet, je vais poser la question ici à Mr. G. De quoi on va parler aujourd'hui, G ?
Alors aujourd'hui, on va parler de l'aspect financier ici en prison. Et pour m'accompagner dans ce sujet, j'ai tous mes camarades ici avec moi pour vous expliquer un peu ce qu'on vit ici, nos réalités.
Donc, un peu c'est l'argent, on va dire le sujet aujourd'hui, l'argent, la relation de l'argent, l'impact de l'argent après incarcération, c'est ça ?
Exactement. Et même pendant.
Et même pendant, et même après. C'est important aussi. Donc, voilà Kipala, par exemple. Qu'est-ce que tu, selon ton expérience, qu'est-ce qu'il est l'impact, on va dire, direct, une fois incarcéré, sur l'économie, la relation argent, prison et tout ça ?
Au niveau de l'argent, bon, quand on est incarcéré, je pense qu'il est important d'avoir, de quoi financer ce qu'on appelle, nous, la cantine, ainsi que... Bon, oui, c'est le principal, c'est la cantine, et pouvoir avoir un suivi financier. Donc des personnes aussi, comme vous êtes coupés, qui peuvent vous soutenir, donc c'est la famille et les proches.
Donc pour mettre un petit peu l'auditeur qui n'est pas nécessairement connaisseur de notre réalité, donc le premier impact, par exemple Samir, tu peux me parler de ce premier impact quand tu arrives en prison, ça te perte de revenus, je me suppose. Si tu as un chômage, tu as une mutuelle, un truc ou CPAS, une fois qu'en prison, tu as zéro comme revenu, en fait.
Ouais, oui, vas-y. En fait, j'ai tout perdu. Mais petit à petit. Ils m'ont pas que privé de liberté, hein. Ils m'ont privé de tout, en fait. Maintenant, j'ai perdu mon logement. Ma famille est encore là, mais je suis en train de perdre mes enfants. J'ai une pension, j'ai plein de trucs, mais j'ai plus rien, quoi. Je sais pas comment faire. Je demande pour travailler ici. Je suis en attente. Pour pouvoir envoyer de l'argent là, c'est très difficile.
Ouais. Mohamed, qu'est-ce que tu peux nous raconter, toi, selon ton expérience, ce que tu vois autour de toi quotidiennement par rapport à cette relation, on va dire, argent, prison, la perte des revenus, comme il disait Kipala, ces prix astronomiques ou ces prix élevés au niveau de la cantine, de la télévision, et même des produits de nettoyage, par exemple, qu'il faut les cantiner. Celui qui n'a pas, ben, il n'a pas les moyens de d'acheter, donc il ne peut pas nettoyer sa cellule et le sol de sa cellule. Selon ton expérience ou ce que tu vois autour de toi, qu'est-ce que tu peux nous expliquer un peu?
Ouais, ok, ben je rejoins un peu mon ami ici, Samir, qui vient d'évoquer un peu sa situation personnelle. Et c'est vrai, dans ce que tu dis, les besoins les plus essentiels, les plus primaires, ben pour les couvrir, il faut un minimum d'argent. Et c'est vrai que la prison, elle ne nous aide pas des masses, voire pas du tout, dans cette démarche-là. Et du coup, c'est vrai, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est l'aspect... incarcéré. Donc, quand on est encore dans cet épisode d'incarcération, mais une fois sorti dehors, c'est aussi encore plus compliqué de se réinsérer quand on part avec des dettes, quand on démarre sa réinsertion avec des dettes, des pensions alimentaires, tout ça. Ouais, donc, ouais, c'est vrai que l'aspect financier, c'est primordial pour une bonne réinsertion, y compris pour une bonne détention.
Tout à fait. On va y arriver. On va dire, c'est le deuxième bloc de cette émission. Là, on va parler des conséquences un peu financières après la sortie, tout ça. Mais pour l'instant, ce que je veux transmettre à l'auditeur, c'est une image de la réalité quotidienne en prison. Serhat, apporte-nous tes idées et ta lumière sur le sujet.
Oui, voilà, en fait... Quand on rentre ici, et souvent on a un petit peu d'argent de côté, mais il y a toujours quelque chose qui se passe. Voilà, je vais pas rentrer dans le vif du sujet, mais on se retrouve souvent à sec, à 90% ici, on n'a plus rien, quoi. Après, on est dépendant, si on a de la famille ou des amis. Bon, après un certain temps, et même ça s'arrête, quoi. Et on arrive à un point où on a plus d'aide. Et ici, normalement, en prison, quand on rentre, la majorité, on va dire, bon, il y a la moitié qui fume. Ou ben, écoute, à partir d'un moment où tu deviens un non-fumeur, où tu ramasses des mégots, tu vois. Avant, dans les anciennes prisons, on avait droit à du tabac social une fois par semaine. Ici, ce n'est pas le cas. Dans les anciennes prisons, et malgré qu'ils soient vétustes, et chaque matin, on passait, on mettait deux capuchons de produits pour qu'on puisse au moins et nettoyer. Et quand on en avait besoin, on nous donnait un pack hygiène. Et donc, on savait au moins se débrouiller. Et question hygiène aussi, dentifrice, savon, bazar, tout ça. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, si tu n'as pas d'argent, ben, écoute, tu pues tout simplement. Et c'est ça, et tu sais même pas laver ton linge.
Récemment, c'est juste même les papiers toilettes, les PQ qu'on donnait aux gens. Oui, dernièrement, il n'y en a plus, hein, apparemment.
Oui, voilà. Ben, écoutez, ben, on va dire tant mieux, hein, entre guillemets, et comme ça, et tout le monde se lave à l'eau. Et je trouve que c'est plus hygiénique, entre guillemets. Ça, c'est une opinion et personnelle. Bon, voilà. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire. À Rennes, malgré que les murs soient nouveaux, il y a... C'est censé être plus facile, mais il y a certains points où c'est vraiment plus difficile. Voilà.
Mr. G, si tu sais nous parler un peu de pour que l'auditeur peut avoir une idée claire. Par exemple, récemment, il y a eu un changement apparemment de fournisseur de cantine et une bouteille d'eau, elle est passée de 0,52 centimes à 0,74 centimes. Explique à l'auditeur un petit peu toute cette relation des prix. La télévision, par exemple, qu'est-ce qui vous coûte et nous coûte voir la télévision, des chaînes normaux. Raconte-nous un petit peu, j'aimerais bien que l'auditeur il comprend, il reçoit cette image de la réalité quotidienne qu'on a ici.
Alors, ça va être compliqué de parler de cette réalité parce que moi, je vis une réalité que peut-être d'autres détenus ne vivent pas. Moi, en ce qui me concerne, je travaille à l'atelier. C'est un des travaux, je crois, le mieux payé ici à la prison. Et avec... Bon, je finis peut-être le mois, quand je dis le mieux payé, je finis le mois entre 180 et 200 euros.
Waouh.
Donc, il ne faut pas croire que les salaires en prison, ils sont très, très élevés. Et avec cet argent-là, j'ai du mal à finir le mois. J'ai vraiment du mal. Alors, j'imagine pas pour ceux qui ne travaillent pas, surtout que, comme tu dis, l'eau s'est montée à quasiment plus de 50%, mais il faut savoir qu'il y a plein de choses qui sont montées à plus de 150, 110%. J'ai pas tout en tête, mais il y a des prix qui m'ont choqué. Par exemple, le simple sneakers qui passe de 50 centimes à 1,20€ ou 1,10€. C'est des prix qui sont assez choquants. Et ce sur quoi je voulais revenir en plus, c'est surtout le fonds d'aide sociale. En tant que travailleur, on cotise en fait. On cotise pour créer un fonds d'aide sociale.
Le fameux fonds d'entraide.
Et ça, le fonds d'entraide. Pour pouvoir aider les détenus qui n'ont pas d'argent. Le problème, c'est que ici, dans cette prison, moi, je n'ai pas fait d'autres prisons, mais ceux qui touchent ce fonds-là, ils me disent qu'ici, bah, ils touchent moins. Il faut savoir que ce fonds, c'est 15€. La télé, par mois, c'est 18€. Ce fonds ne couvre même pas l'abonnement télé.
Et avant, c'était 150€. Hein. Et ce sont les détenus qui cotisent. Hein. Il faut savoir que quand les détenus travaillent dehors, enfin, et travaillent en prison, ici, les responsables, ils touchent aussi de l'argent. Et par exemple, ils touchent 7€ par heure, et le détenu touche 1€. Et la différence, bon, ben, c'est pour les aides
sociales. C'est ce qu'il était, justement, c'est ce qu'il était en train d'expliquer, Mr. G. En fait, il y a cette différence entre ce qu'il peut payer un employeur externe, la différence entre ce que lui, il paye et ce qu'il touche finalement le travailleur. Il y a la différence avec tout ce qu'il gagne avec télévision, téléphonie et cantine. Si tu peux nous continuer à développer ce que tu disais, Mr. G.
Là où je voulais en venir, en fait, c'est que ce fonds d'aide sociale, il permet même pas à un détenu d'avoir, comme il a dit Mohamed, subvenir à ses besoins primaires. C'est dur avec 15€ aujourd'hui avec ce nouveau fournisseur qu'on a et les prix qui sont vachement montés. C'est dur pour un détenu. C'est impossible en fait. C'est même pas dur, c'est impossible qu'avec 15€, il arrive à faire quelque chose durant le mois. Il va cantiner du tabac, le tabac il est à 12€. Il va cantiner. Il ne peut rien faire, en fait. 15€, ce n'est pas suffisant. Après, il y a plein de détenus qui sont sur liste d'attente de travail. La prison, elle est grande. La prison, elle est surpeuplée. Et tout le monde n'a pas la chance de travailler. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des revenus à l'extérieur. Il faut savoir que, comme Fawzi a dit, dans le deuxième bloc, on va parler de la sortie. Mais si déjà, à l'intérieur, c'est difficile, il faut imaginer comment ça va être à l'extérieur. Il faut imaginer la peur du détenu chaque jour quand il voit qu'à l'intérieur, c'est dur, qu'il appelle sa famille et que sa famille lui parle. Des fois, il y a des pères de famille ici, ils ont honte. Ils ont honte de dire certaines choses à leur femme. Ils ont honte de dire, oui, mais moi aussi, c'est dur ici. C'est dur, en fait, c'est dur de dire cette phrase. C'est dur d'assumer, voilà, je ne suis pas là, je ne peux pas être le responsable de la famille, je ne peux pas assumer tout ce qui se passe. Et c'est dur de te le dire. Je me suis déjà retrouvé dans cette situation-là où moi-même, au téléphone, bah, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à dire, c'est dur, je suis désolé, je ne suis pas là.
Eh oui, c'est la réalité. Kipala, est-ce que tu peux me parler un petit peu aussi de cet impact d'argent que finalement, presque dans le 100%, on va dire le 80%, c'est la famille finalement qui supporte... Ces problèmes économiques de son époux, de son fils, qu'il est en prison. Est-ce que ça cause aussi, au long terme, des problèmes avec la famille, que finalement, la vie dehors n'est pas facile non plus. Donc, tu peux nous parler un petit peu de ce côté, la famille, amis, et cette relation avec l'argent, quoi.
Même malgré que j'ai 3 enfants, et dans mes 3 enfants, j'ai un quand même, j'ai un de 26, de 18 et de 10. Pour le plus grand, quand même, je peux dire que c'est même lui maintenant qui se retrouve à m'envoyer de temps en temps, comme hier, bon, je l'ai appelé, il est à l'étranger. Il vit maintenant à l'étranger, il me dit, papa, je vais t'envoyer quelque chose. J'ai de la famille, bon, j'ai une mère qui est aussi très âgée. Et moi-même, je me retrouve dans des difficultés, des fois où je me dis, si je n'avais pas certaines personnes qui se rappellent, qui se rappellent qu'ils me doivent de l'argent, m'envoient de l'argent. D'autres, comme par hasard, vous tombez sur le répondeur, ce qu'on connaît bien. Et puis les autres, ils font l'air de dire ils ont la maladie de Parkinson ou Alzheimer, ils oublient que Ah, ben, il y a un temps là où c'était moi qui payait ce qui devait, on va dire, à l'État, etc.
Tout à fait. Allez, mon petit point de vue aussi, parce qu'on a parlé ici du salaire qui parlait, par exemple, Mr. G, pour que l'auditeur, il a une idée. Un servant dans une unité qui nettoie toute la surface de l'unité, qui sert à manger, et que c'est un peu un passe-partout, on profite du tout, son salaire, qu'on n'appelle pas le salaire ici, ils n'aiment pas le mot salaire, ils l'appellent gratification, c'est d'environ une centaine d'euros. Donc comme ça, l'auditeur, il a une idée, ce qu'il touche quelqu'un qui travaille tout un mois pour la prison. Et ces 100 euros, bah, si de la télévision, des chaînes normandes, on ne parle pas des Canal Plus et des chaînes TNT qu'on peut voir gratuit dehors, ici, ça te coûte 0,60 centimes la journée, ce qui fait 18 euros par mois. 18 euros par mois, ça veut dire le 15% de ton salaire. Et 15% de ton salaire, ça veut dire, pour être... une idée claire, c'est comme si quelqu'un à l'extérieur, il travaille pour 2000 euros, il paye 300 euros que pour voir une télévision gratuite. C'est ça la réalité en prison.
C'était gratuit, hein. C'était gratuit, il faut préciser ça. Il y a eu un prix d'un coup, novembre 2023. La télé est devenue payante. Et je n'ai jamais oublié cette date de ma vie.
Et entre guillemets, la TV, c'est notre seul lien avec l'extérieur, entre guillemets.
La téléphonie aussi, apparemment, c'est un problème, non, la téléphonie
Si tu as envie de parler, tu étais facile à 400-500 le mois, quoi.
Ouais, ouais. Mohamed ouais, ouais.
En plus, à ce sujet, moi, ça me tient à cœur parce que le téléphone, c'est le seul... c'est le seul outil qu'on ait pour rester en contact, pour préserver nos relations à l'extérieur. Et le souci, c'est quand on voit les prix exorbitants, comme vous disiez, du téléphone... les conséquences que ça a, c'est désastreux, hein, parce que ça détruit des foyers, des familles, ça détériore les relations qu'on a à l'extérieur, comme je le disais. Ça conduit à l'isolement, donc ça nous isole avant la sortie. Et je pense qu'un détenu, quelqu'un qui sort, qui est libéré, qui essaie de se réinsérer, mais seul, isoler un détenu avant de le libérer, c'est augmenter pour moi ses chances de récidive. Ça diminue ses chances de réinsertion. En fait, quand on regarde un peu la gestion au niveau argent des établissements pénitentiaires ici en Belgique, on a l'impression que les choses sont pensées, donc préméditées, pour augmenter les taux de récidive à l'extérieur.
Tu t'en sors jamais, quoi.
C'est effarant, ouais. Effarant.
Eh bien, les amis, on va faire une petite pause et on vous propose la chanson latino, une chanson salsa qui s'appelle El Preso de Fruco y sus tesos. Allá va. Arriba.
Oye, te hablo desde la prisión. Wilson Manyoma. Orbona. Aquí y que es un fante.
celda donde no llega el cariño ni la voz de nadie. Aquí me paso los días y la noche entera, solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, 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 solo espero que llegue. Ay, 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 el día que la muerte, ay, 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 me lleve a estar con ella. Ay, al fin, a cambiar a mi suerte.
Voilà, c'était El Preso. Bah, en gros, c'est une chanson qui parle de l'histoire d'un détenu solo con su pena y solo con su condena, tout seul avec sa peine et tout seul face à sa condamnation. Les amis, je vous rappelle, si vous voulez nous proposer des sujets, des thèmes, des choses que vous voulez savoir, vous avez toujours notre adresse mail sur laquelle vous pouvez nous écrire, et c'est lecri@xara.be, donc GSARA.BE. Le deuxième bloc de ce qu'on va traiter ici maintenant, c'est, on va dire, les conséquences financières ou les conséquences de cette relation argent-prison. Mais on va dire comme double peine, c'est dommages collatéraux. On va parler des dettes, par exemple. On va parler des pensions alimentaires qu'on ne peut pas payer quand on est en prison. On va parler des loyers, par exemple, que vous pouvez perdre votre appartement parce que vous êtes incarcéré. Ici, mon ami VP, par exemple, il va nous parler de les frais d'avocat. Et qu'est-ce que ça change, par exemple, une bonne défense payante, il y a un avocat Prodeo, par exemple. C'est ça ?
Selon moi, après ça, chacun son appréciation, j'ai eu affaire aux deux. Ça veut dire que quand je suis rentré en détention en 2020, j'ai eu tout d'abord un avocat Prodeo qui s'est présenté. Par la suite, après, j'ai changé, j'ai pris un avocat payant. Et ce que j'ai pu remarquer avec un avocat commis d'office, enfin un Prodeo et un avocat payant, c'est que c'est, selon moi, comme je dis, ça, chacun son appréciation. Je trouve que les avocats Prodeo sont débordés, sont plus à la dilettante. Un avocat payant, en fait, je trouve que j'ai plus de liberté avec un avocat payant. Pourquoi ? Enfin, ça, c'est tout bête. À partir du moment où je le paye, ben, j'estime que je peux me permettre de faire certaines revendications, je peux me permettre de me fâcher. Alors que quand c'est un avocat qui est pro déo, etc., c'est un peu particulier déjà pour les contacter, etc. C'est assez particulier. Après, j'ai envie de dire qu'il faut un peu les comprendre. Si on se met un peu à leur place, on n'en met pas la même énergie quand un client nous paye et que si on est payé par par l'État, voilà, c'est exactement. Donc voilà, ça c'est la différence que je trouve entre un pro déo et un payant. Mais après, il faut savoir que tous les avocats payants ont été pro déo dans le passé. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'un avocat payant est meilleur qu'un pro déo. Des fois, tu peux tomber sur un pro déo qui est plutôt pas mal. Il faut savoir qu'aussi les avocats payants, une fois dans l'année, sont obligés d'être aussi pro déo. Donc sur le sort du hasard, tu peux te retrouver avec un avocat payant qui va défendre tes intérêts parce qu'il a été désigné par le bâtonnier pour qu'il fasse du pro déo. Voilà, exactement.
Donc voilà, ici on a le premier impact, on va dire, dès que tu es incarcéré, il te faut un avocat. Donc on vient de connaître un petit peu la différence entre cette défense pro déo et défense payante. Mais une fois en prison, ça se passe comment, Serhat, par rapport à ces autres frais que tu as, ce prêt immobilier, ce prêt de ta voiture, par exemple, comment on peut gérer tout ça? Est-ce qu'il y a des facilités? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider? Comment ça se passe?
C'est tout simple, hein, y a pas de secret, il faut que tu payes, c'est tout. Si tu ne payes pas, tes dettes s'accumulent. Si tu ne payes pas, si tu as des pensions alimentaires à payer, ça s'accumule. Et peut-être que ça va même aggraver la situation. Ensuite, ton loyer, tu ne payes pas, tu perds ton logement. Prêt immobilier, tu perds ta maison. Voiture, tu n'as plus rien, quoi. Et puis c'est tout. Et si tu as un petit ami, bon, après 3-4 mois, si elle est serrée, si ce n'est pas un bon homme, il n'y a rien à faire. Je te conseille de l'oublier, tout simplement.
Et c'est compréhensible.
Bah ouais, et c'est ce que j'ai fait, c'est comme ça je te le dis, tu vois. Et c'est clair. J'ai décidé de... Et pour elle aussi, hein, comme ça, elle arrête de perdre son temps. Et moi aussi, c'est tout.
C'est intéressant ce que tu es en train de dire, parce qu'en réalité, les gens, quand on pense à une condamnation, on pense à une peine X années, X mois. Personne ne se rappelle de ce côté. Il y a toute une vie que se détruit.
Oui, tout à fait, mais une fois que quand tu rentres en prison, il y a toujours un avant et un après.
Tu peux l'appeler une double peine?
Mais bien sûr, même triple ou quadruple, ça dépend des personnes, hein, et ça dépend des situations. Il y a des personnes qui arrivent à gérer mieux que d'autres, il y a des personnes qui ont des familles unies, ou par amour, ou par principe, ça dépend. Il y a des personnes qui ont des éducations. Écoute, moi je vais te dire, et tout simplement, moi j'avais un ami de 20 ans, bon, j'étais dans des activités un peu illégaux, et ça faisait 6 mois que j'étais dehors, tu vois. J'ai réussi à faire un peu d'argent d'une manière ou d'une autre, peu importe, il était dans la merde. Mais je le connais vraiment très très bien, hein. Il me connaissait très très bien. Je l'ai ramené dans ma planque, je lui ai dit tu peux rester ici, il avait tout, je lui ai montré comment faire un peu d'argent. En fait, une fois que je suis rentré, plus d'argent, plus rien, plus d'affaires, voilà, ouais, c'est tout. Et je me suis retrouvé sans rien, or que j'aurais pu assumer ma détention pendant quelques années, facilement, tu vois.
Ouais, ouais.
Et voilà, je me suis retrouvé sans rien. Après, j'ai envie de te dire, le hasard a fait que on tombe aussi en prison sur des bonnes personnes aussi, tu vois. Tu vois, et des fois, il y a des bonnes personnes qui sont du mauvais côté, il y a des mauvaises personnes qui sont du bon côté. Et comprendra qui peut, tu vois. Et voilà, il y a des personnes qui t'aident ou bien qui te donnent des moyens de t'en sortir aussi, de pas t'en sortir, hein, mais bon, de garder la tête sur l'eau, entre guillemets, tu vois. Et je remercie ces personnes aussi, tu vois. Après, voilà. Et dans mon cas, je n'accepte pas tout le temps, tu vois. Si je ne connais pas la personne, il me propose quelque chose, je lui dis, vas-y.
Chez nous, on dit qu'on connaît les bons amis en prison ou à l'hôpital.
Oui, voilà. C'est comme le frérot ici disait, qui parle à disait, tu vois. Il y a des personnes qui sont amnésiques. Je te dis, j'ai passé une somme à une personne que j'avais prêtée auparavant, ça fait 3 ans. Je veux pas te, et je vais Il y a vraiment, hein, ça c'est la vérité. Il y a deux semaines, je l'appelle, je lui dis, écoute frérot, je suis un peu... Tu vois, et même malgré ça, jamais je demande l'argent. Hein. Mon argent, je ne lui demande pas. Et parce que je sais qu'on va rentrer dans une situation conflictuelle et je veux pas, je veux sortir et régler cette histoire. Bon, mais là, je n'ai pas. Ouais. C'est quoi ? Je l'appelle et j'ai besoin de 500 euros. Il me dit, ok, bazar, ça fait 3 semaines maintenant, il n'y a toujours rien et il n'y aura pas, je le sais.
Écoutons ce qu'il a à nous dire aussi. Ouais,
je rejoins totalement ce qui vient d'être dit. Moi, ce que j'ai pu remarquer, parce que c'est ma troisième incarcération, c'est que la prison, ça peut avoir deux effets sur nos relations à l'extérieur. Soit c'est très révélateur. Soit ça vous prouve que les personnes qui sont à vos côtés depuis le début sont les bonnes, des gens très fidèles. Ou bien c'est tout le contraire et ça démasque, ça fait tomber les masques, quoi. Mais je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est plutôt la deuxième option. Donc ça fait tomber plus de masques que ça en révèle. Que ça révèle des gens fidèles. Et après, j'aimerais revenir, si vous le permettez,
bien sûr,
sur un petit point qu'on a évoqué juste avant la petite pause musicale, là, sur les prix des téléphones. En fait, toutes les dispositions qui sont prises par la gestion des prisons et tout ça, moi, tout ce que j'ai pu remarquer après toutes ces années de prison, c'est que ça nous pousse à la transgression. Je m'explique. Pour le prix du téléphone... Moi, pour avoir un minimum de contact avec ma maman qui est très malade, et moi et mon épouse aussi, je mets 5 euros, on va dire, par semaine. Pour avoir, voilà, au total, ça fait 20 euros par mois. Plus je suis fumeur, plus la télé. Donc, juste le téléphone, la télé et le tabac, ça me bouffe 100 balles. Ça me bouffe 100 balles. Donc, si je travaille ici en prison, ce qui n'est pas le cas, la rémunération à laquelle j'aurai droit, elle ira juste là-dedans. Donc, la télé, le téléphone et le tabac. Et malgré ça, le téléphone, je veux dire, j'ai 3 personnes à contacter tous les jours. Donc mon épouse, ma maman et mon petit frère avec qui je travaille, on a des restaurants, tout ça. Et c'est pas possible, c'est infaisable. Et on constate quoi ? Que les liens sont détériorés, qu'on devient peu à peu, mais sûrement, des inconnus les uns pour les autres, qu'on se parle plus du tout comme avant. Et à notre sortie, bon, on appréhende un peu, parce que moi, des fois, je suis allongé sur mon lit et je pense à ma sortie qui arrive, j'espère, à grands pas. Et ça me fait très bizarre, parce que quand je repense un peu, quand j'imagine, je visualise un peu les retrouvailles, ça suscite en moi une émotion un peu... C'est un peu ambivalent. C'est beaucoup d'impatience et je suis très impatient de retrouver mes proches, mais aussi beaucoup d'appréhension, parce que j'ai l'impression qu'on devient petit à petit, comme je viens de le dire, des inconnus. Ouais, c'est très destructeur. En fait, tout ce qui est mis en place ici, je suis désolé de le dire, hein, mais c'est très contre-productif. C'est mal pensé. Ouais. Quoi.
Les auditeurs qui nous suivent, ils savent qu'on a eu l'occasion, en notre émission, on a parlé aussi de cet impact avec la famille, de tout ce qu'on est en train de parler un petit peu. Il y a un grand problème de est-ce que cet enfermement sert à quelque chose, finalement, ne sert plus rien qu'à détruire. Ouais. Samir, ton expérience au niveau les prêts, ou un loyer ou...
Oui, pour moi, je rejoins tout le monde, en fait. Ils ont tous raison. C'est dur. Franchement, c'est dur. Psychologiquement, c'est dur. La famille, s'ils ne sont pas là, j'aurais craqué depuis longtemps. Vraiment. Moi, j'aimerais passer un message à tous ceux, à toutes celles qui ont quelqu'un dans l'incarcéré, qui vous ont fait peut-être du mal ou vous leur reprochez quelque chose. Faites un geste, ils ne vous oublieront pas. Parce que je suis sûr que maintenant, à cet instant-là, tous ils sont en train de penser à tous ceux qui ont fait du mal. Qu'est-ce qui les a amenés ici ? Qu'est-ce qui les a fait à faire ça ? Ils ont fait du mal peut-être. Ben là, on est toujours dans le problème d'argent. Une aide financière, un geste, il va voir. Les extraits, il va regarder son téléphone tous les jours, il tape. Il sait qu'il n'y a pas d'argent. Il tape. Il faut le code, il entend, non, c'est pas rentré, mais il n'y a personne qui l'aurait envoyé. Et il souffre. Et quand un jour, il voit de l'argent, qu'est-ce qu'il fait ? Il demande les extraits de compte et il voit un nom. Un nom. C'était pas cet argent-là qu'il attendait. Il reste étonné, il se dit, mais pourtant, j'étais pas bien, je lui ai fait du mal, peut-être. Pourquoi il m'envoie de l'argent ? Et il me remet en question. Un geste. Ça fait plaisir à entendre, un geste.
Ouais. On oublie des fois ce côté aussi psychologique, ce côté souffrance et ce côté quotidien, que ce n'est pas facile, d'après ce que je vois, de ta réaction, de tes propos, c'est vraiment, c'est dur vivre cela. Mister D, raconte-moi ta vision à toi sur ce qu'on est en train ici de discuter.
Sur l'impact que ça a, l'aspect financier, il est trop. Là, c'est... Moi, quand je pense à, par exemple, moi, j'aime bien parler en jeu, mais moi, ma détention, elle ne me concerne pas uniquement moi. Même financièrement, elle ne me concerne pas uniquement moi. Ma détention, elle concerne tout mon cercle de proches, en fait. Tout mon cercle de proches, j'ai l'impression qu'à cause de ma détention, eux aussi, quelque part, ils vivent un certain malheur.
Les dommages latéraux, quoi. Collatéraux.
Exactement. Donc, ma mère est impactée, mes frères sont impactés, tout le monde est impacté, tous mes proches, ils sont impactés. C'est pas unique, c'est pas juste financier. Financier, oui, sûr, c'est sûr. Ça va être dur, oui, sortir. Comme mon ami Mohamed, il dit, on appréhende la sortie. Il y a des détenus qui ont peur de la sortie. On est pressé de sortir, mais au final, il y en a qui ont peur de la sortie. Et qu'est-ce qui nous attend derrière cette porte? Ah oui, j'ai telle dette. Ah, je venais tout juste de signer un CDI, j'ai plus de CDI. Ah, maintenant j'ai un casier. Je vais postuler où? Je vais faire quoi? Est-ce que je vais travailler? Je me retrouve avec des dettes. On va me proposer peut-être de faire le guet au coin de la rue et prendre 150 euros chaque jour. Ok, pendant un mois, je vais refuser. Mais si je trouve pas de travail après un mois, deux mois, j'ai la pression de la famille et tout ça. Il y a bien un moment où je risque de replonger, en fait.
Ouais, c'est un peu compliqué. Quand tu trouves que tu as des dettes, des frais de justice, qu'on n'a pas parlé aussi de ces frais de justice qu'on te condamne, ces frais ou c'est indemniser les parties civiles. Vraiment, le coût financier, c'est terrible qu'il n'y ait pas là. C'est trop. C'est
grave. C'est vrai. D'autres personnes ceux qui nous entendent vont dire oui, mais ils l'ont mérité, etc. Mais ce qui est dingue, en fait, quand j'entends ces imbécilités, c'est que, je ne veux pas mentir, hein, moi je suis en train de me dire aussi qu'on a tous pensé ici à cette table quand on était dehors, oui, il a mérité, parce qu'il a fait, il a fait. Mais quand vous vivez la chose, en fait, et ça peut prendre plusieurs aspects, vous vous rendez compte, vous dites, ah merde, en vérité, c'est vrai que moi j'ai pensé de manière égoïste. Moi, mon incarcération a apporté aussi beaucoup de choses positives. Même si c'est dingue ce que je dis, ça m'a apporté quand même 60 à 70%, hormis les personnes que j'ai rencontrées ici, avec qui j'ai gardé contact. Mon cercle relationnel s'est agrandi, mais de l'autre côté, il y a des... c'est pas des personnes. Il y a des membres de ma famille directe, qu'on est du même sang, que je m'attendais vraiment pas à ceux qui se déplacent, qui fassent quand même des kilomètres. Un de mes grands frères, je m'attendais vraiment pas, pourtant... ça a été... moi j'ai coupé les relations. Je me suis mis très 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 fort en retrait. Et c'est vrai que l'aspect financier, tous ceux qui ont eu le mic maintenant, là, ils ont dit beaucoup de vérité. Mais je pense qu'on vit dans une société, en fait, la société humaine est la société humaine, l'être humain est égoïste. L'être humain est égoïste et il est viscéralement... quelqu'un qui doit arriver dans une situation de danger pour se réveiller. C'est que, comme on dit, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on perd. Et c'est là, en fait, ça nous confronte à une énorme réalité. Et je le dis, la prison, c'est surtout d'abord psychologique. C'est psychologique, ce n'est pas une question de béton, qu'on a des murs. On a toujours des murs. Il y a d'autres personnes qui sont dehors, qui nous entendent, qu'eux aussi vivent en prison, qu'ils ont du mal à se réveiller le matin, à se dire aller travailler, qui ont des problèmes avec leur femme, leur mari, leurs enfants aussi, qui n'arrivent pas à se comprendre, qui se demandent où je suis, où j'en suis dans ma vie. Et pourtant, ils sont à l'extérieur. Hein. Combien d'agents qui sont ici, je vois, qui ont des vies pathétiques. Du jour au lendemain, ils craquent, et bien ils deviennent dépressifs. Et quand ils nous voient, nous, je parle par exemple, moi, je parle de moi, ils me disent, mais comment tu fais? Et ça devient en fait la prison n'est que, pour moi, elle est psychologique. Il y a l'aspect financier, mais quand on s'attache à l'aspect financier, c'est la société
C'est la société dans laquelle on vit depuis nos grands-parents, nos ancêtres, qui nous engrène en fait à de l'argent pour de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Mais la finalité, on va tous crever. Parce que l'argent, c'est quoi ? L'argent n'est rien. Quand nous allons aller sur Terre, l'argent ne nous suit pas. Nos ancêtres ont essayé de faire ça. Je parle pour moi, les Égyptiens, et j'en parle encore de d'autres, qui ont dit, ah tiens, on va prendre un paquet de fric de l'autre côté, quand on va voir Anubis, il va nous dire, bon, si on moyenne un peu, on va pouvoir passer de l'autre côté. Impossible. Voilà.
Très intéressant, très intéressant. VPI, raconte-moi, mon ami.
VP, s'il vous plaît.
Ah, VP, pas VP. Oh, bah, moi, je dis en anglais, ah, VP. Il manque un I, VIP. Voilà.
En anglais aussi, j'avais pas pensé comme ça. Moi, c'était juste pour raconter vite fait une petite anecdote concernant un peu ce que Serhat a dit tout à l'heure. C'est vrai que quand tu rentres ici, après ça dépend pour certaines personnes, ça dépend pour qui. Mais moi personnellement, en fait, j'avais un appartement, j'avais des véhicules, tout était saisi. Aujourd'hui, j'ai des trucs à payer, des frais de justice. Il avait fait une petite remarque concernant le fait d'avoir une petite copine, une compagne, une femme, peu importe. C'est vrai que l'argent peut impacter, ça dépend. Après, ça dépend, par exemple, moi, j'ai un fils qui a 5 ans. J'ai ma compagne, j'étais à l'établissement pénitentiaire de Lantin. J'ai déjà fait 5 établissements pénitentiaires. Ma compagne, à cette époque-là, la mère de mon fils, a pris ses clics et ses claques, est partie et a déposé mon enfant chez ma mère, en disant qu'elle ne voulait plus rien savoir de moi, elle est partie se remarier, etc. Donc tout ça, c'était juste pour dire que l'argent, comme Kipala a dit, l'argent, c'est rien parce qu'on va tous crever, oui, certes, mais on a besoin de cet argent pour vivre, pour subvenir à nos besoins, et ça peut énormément impacter sur nos relations, comme Mohamed a pu le dire tout à l'heure, l'argent est révélateur. Comme il dit, il y a des gens qui deviennent amnésiques. Moi, ça m'est énormément arrivé parce que j'ai entretenu énormément de personnes, vraiment énormément de personnes. Mais après, je me dis que quand je l'ai fait, je ne l'ai pas fait dans le but d'attendre un truc en retour. Ça veut dire que personnes ne sont... Dis-moi, oui.
On va essayer de ne pas rentrer dans des détails personnels parce que finalement, c'est une image d'une réalité de tout le monde, ce qu'on veut transmettre, parce qu'on peut se perdre un petit peu de notre sujet principal. On aura l'occasion, possiblement, de parler d'autres trucs. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Ben, écoutez, les amis... Il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose, Mohamed ?
À part si tu juges qu'on a tout dit. Ouais, moi j'aurais peut-être envie de revenir sur deux, trois trucs. Comme je le disais, ça nous pousse. Donc tout ce qui est prix exorbitant de la cantine, des téléphones, ça nous pousse à adopter des comportements transgressifs. Comme par exemple, concrètement, de faire entrer illégalement un téléphone en cellule pour contrer un peu les prix du téléphone et nous permettre de garder un maximum les relations qu'on a à l'extérieur. Et aussi, par exemple, moi...
Si tu me permets, dans un instant, c'est dans le dernier bloc, on va parler...
On abordera tout ça, ok.
On va parler de qu'est-ce qu'on peut proposer, nous, qu'est-ce qui nous semble plus correct, plus juste, ou plus... ce que tu parles, par exemple, ça rentre dans
ce chapitre-là,
dans ce chapitre-là, donc c'est parfait. Je te coupe pas, juste je mets...
Tranquille. C'est toi le chef d'orchestre.
Voilà, donc écoutez, pour mettre une petite pause, on va se relaxer un petit peu. Et là, je vous propose une chanson que je vais me permettre de vous chanter. Il s'agit de... Attends, il m'arrête, Mr. G.
Cette chanson, tu peux pas nous la faire en karaoké, par hasard ?
Par exemple, oui.
Fais en karaoké. Vous êtes chaud, hein ?
Donc, karaoké. Il s'agit de la chanson « Quién » de Pablo Alboran. On est prêts, les amis, ou quoi?
Oui. On est prêts.
Vos oreilles sont prêtes.
T'as les paroles, t'as tout.
No te atrevas a decir te quiero. No te atrevas a decir que fue todo un sueño.
una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. Me conformo con no verte nunca. Me conformo si ya no haces parte de mi vida. Te ha bastado una noche con otro para echarme la arena a los ojos. Hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo.
Wow.
Voilà, voilà, voilà. Merci, merci, merci tout le monde. Merci, wow, les amis.
Wow.
Merci, j'aime mon grand, merci beaucoup. Ah.
On dirait pas que tu fumes 3 paquets par jour. Hein.
Franchement, franchement, moi, je te conseille d'aller à Star Academy.
Bah, à mon âge, c'est un peu trop tard. Ah, non, à mon âge, non, c'est pas jamais, jamais.
Non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Hein.
Bah,
au fond,
ça va.
Qu'est-ce
ça
qu'un âge?
Je prends note.
Il y a des gens qui ont 65 ans. Non, moi,
je... Un numéro.
Et tu m'as donné la chair de poule.
Un numéro.
Non, mais... en toute sincérité, mon gars, moi, il y a mon cousin à côté, il me dit la boîte, ma boîte de nuit, je peux. Il me dit qu'il va la reprendre. Il veut lancer des stars. Là, on a. C'est la personne qu'il faut, manager, franchement. Ah, moi, bah, je suis pire à investir.
Super, mes amis, merci beaucoup de votre retour. J'espère qu'à l'auditeur, non, ça lui sincère. Plaise aussi. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part.
Tu peux juste nous refaire mes corazones? Mais vite fait, genre.
Non,
pas celui-là.
Laquelle, alors?
Mi corazón.
Qui est mi corazón? Il n'y a pas de mi corazón.
Mi corazón.
Mi corazón. Il n'y a pas de mi corazón. Donc, les amis, on va y arriver maintenant. On revient au sérieux, on revient au calme. Et là, le dernier chapitre, comme je te disais, et là, je te redonne la parole, Mohamed. On parle maintenant des propositions. Vu la réalité, vu les problèmes, les... je ne veux pas être dans ces théories de conspiration, comme tu disais avant, de qu'on dirait que ça se fait exprès et que c'est prémédité, mais c'est vrai que c'est difficile de s'en sortir avec tout ce qu'on a parlé, ce qu'on a expliqué de l'impact et des difficultés économiques pendant et après. C'est difficile de s'en sortir, mais qu'est-ce qu'on peut proposer, par exemple? Qu'est-ce qu'on aurait aimé comment... Parce que, y a, si tu me permets, il y a un sujet très important qu'on oublie. C'est que cette prison de Arènes, par exemple, coûte à l'État 40,2 millions d'euros par an. Ce qui fait que dans 25 ans, c'est ce qu'il faut payer, c'est 1 milliard. Ce milliard sort de la poche de contribuables. Ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le président, c'est le contribuable. Est-ce que le contribuable...
Oui,
peut être d'accord.
Est-ce qu'on pourrait utiliser ce budget à bon escient, je veux dire, avec un peu plus de pertinence qu'on le fait aujourd'hui? Oui, je pense que oui. Par exemple, pour revenir au téléphone, je ne comprends pas pourquoi on fixe des prix aussi hauts. Et puis aussi, pourquoi est-ce qu'on interdit encore aujourd'hui, en 2025, l'accès à Internet aux détenus, en sachant que la réinsertion, aujourd'hui, tout tourne autour de la manipulation d'Internet, de tout ce qui est adresse mail, de traitement de données, tout ça. Donc, isoler le détenu de tout ce qui est Internet, par exemple, c'est augmenter, encore une fois, ses chances d'échouer dans sa réinsertion. Oui, donc voilà, une des premières propositions, c'est pourquoi pas envisager, en 2025, aujourd'hui, d'intégrer la manipulation d'Internet sous une forme, avec une forme de contrôle, bien évidemment, aux détenus. Et aussi une cantine. J'aimerais aussi intervenir au niveau de la cantine, apporter une cantine plus décente, parce que j'ai fait plusieurs prisons. Moi, je pense que c'est la quatrième prison que je fais. Et j'ai jamais connu une cantine aussi pauvre. Par exemple, encore une fois, ça nous pousse à avoir un comportement transgressif, comme avec le téléphone qui nous pousse à nous faire rentrer des téléphones en cachette pour pallier au prix des téléphones. Eh ben, la cantine, avec toute l'absence de produits, de divers produits, comme par exemple, le premier truc qui me met en tête, c'est la crème fraîche. Aujourd'hui, tout le monde cuisine avec la crème fraîche. Eh ben, on nous l'interdit. Ça nous pousse à la faire rentrer en visite. Ça nous pousse à avoir un comportement transgressif. Et en fait, quand on passe un an ou deux ans dans ce genre d'atmosphère-là, on nous conditionne à devenir des individus transgresseurs. Et on nous relâche comme ça, avec ces réflexes-là, ces réflexes transgressifs dans la société. Et c'est ce qu'on adopte après comme comportement quand on est confronté à un problème de la vie de tous les jours, quand on est à l'extérieur. On a ce réflexe de vouloir contourner les règlements, avoir un comportement transgressif. C'est pour ça que je pense que toutes ces interdictions, cette augmentation de prix et tout ça, c'est contre-productif si notre objectif, c'est de faire des détenus, des gens plus respectueux des lois. Voilà.
Pour juste une note, un peu pour rigoler, il y a quelqu'un qui vient de me passer, c'est un papier, qui dit qu'on peut proposer des iPhone 8 à 500 euros. Prenez notre... Donc voilà, si tu veux fermer, il ne nous reste pas beaucoup de temps, alors je te laisse...
Allez, peut-être une vraie et une réelle proposition. Le téléphone, une heure, ça revient à 6 euros. Pourquoi ils ne nous proposent pas un abonnement? Parce que tous les papas, toutes les familles ici, on parle, quand on prend le téléphone et qu'on appelle quelqu'un, puis qu'on appelle une autre personne, les 1 heure, elles sont vite bouclées. Les 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là, ou 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, ça dépend avec qui on parle et à quelle heure on parle. Si on arrive à avoir juste un abonnement téléphonique, peu importe le prix, ça va gravement nous faire du bien.
Le président. Si, seigneur, on est d'accord.
Si, seigneur.
Mesdames et messieurs, je vous en remercie d'être là à l'écoute, de suivre nos émissions. Encore une fois, je vous rappelle l'adresse mail lecri@xara.be, G-S-A-R-A. Et je laisse la parole à mes amis juste pour vous dire adieu et grand merci à vous. Et vous êtes la raison de cette émission et des suivantes.
Aïe, aïe, aïe.
Aïe, aïe, aïe. Réalisation de
Fauzi,
le G,
aïe aïe aïe,
Serrat,
Samir alias Zakir,
Kipala,
VP,
Mohamed,
avec Ben et Despina.
Ben et Despina,
une production du Xara ASBL,
Xara ASBL.
Aïe, aïe, aïe.
En partenariat avec la FAMD,
FAMD,
avec le soutien
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Radio.
Documentaire.
Radio.
Audiovisuel.
Xara.